Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Yann Gauchard, l'auteur du Cas Annunziato. Donc, le Cas Annunziato, premier roman paru aux éditions de Minuit en cette rentrée de janvier. Minuit, c'est quand même pas rien pour un premier roman.
Oui, ça c'est sûr. C'était mon rêve. Donc, c'est déjà plutôt une bonne chose. Quand même, moi, c'était vraiment mon rêve parce que ce sont tous les auteurs que j'aime. Alors après, au moment donné où on l'envoie, on n'y croit pas. Une fois qu'on nous dit que ça va peut-être marcher, on se dit, mon Dieu, quelle honte de se retrouver à côté de Beckett et de Duras et de Echnoz. Mais puis à la fois, on se dit, c'est pas nous qui sommes éditeurs, donc Irène Nindon fait bien ce qu'elle veut. Donc c'est un grand plaisir, c'est un immense rêve qui s'est réalisé. Et oui, c'est pas rien d'être effectivement chez Minuit.
Mmh, assurément. En tout cas, on peut remercier Irène Nindon d'avoir eu autant de nez et de vous avoir publié. D'ailleurs, c'est l'impression que j'ai eue la première fois quand j'ai terminé votre livre. Je me suis dit, mais vraiment, heureusement qu'il y a des éditeurs qui continuent à prendre quelques risques dans la mesure où ce n'est pas forcément un roman qui va plaire au grand public et qui continuent à publier des premiers romans dans lesquels vous allez comprendre, parce qu'on va évidemment avoir l'occasion d'en parler, il y a un souci d'écriture, un souci aussi par rapport à un sujet, il y a une prise de risque quelque part. Alors, on va quand même commencer par dire un peu de quoi il retourne. Donc, votre personnage central, Fabrizio Annunziato, est traducteur, trentenaire, 39 ans, je crois précisément, va se retrouver dans une situation un peu originale, à savoir que donc, lors d'une visite d'un musée à Florence, donc le musée national, alors qu'il a plusieurs noms d'ailleurs ce musée, mais donc le Museo Nazionale di San Marco, qui est en fait un ancien couvent. Il va y avoir assez rapidement une farce. Et donc, suivant un peu le proverbe de Téléprix qu'il croyait prendre, lui qui pensait enfermer un couple d'amis dans une cellule alors qu'ils visitaient ensemble cet ancien couvent, finalement, c'est lui qui va se retrouver enfermé. Comment vous est venue quand même cette drôle d'idée ?
Eh ben, tout simplement en visitant moi-même le couvent San Marco. C'était il y a à peu près 13-14 ans, peut-être 12, j'ai des problèmes de mémoire. Mais bon, en tout cas, je visite le musée et bon, j'y vais un petit peu à reculons parce que je ne suis pas croyant, donc ça me parle pas forcément des tableaux extrêmement religieux. Et à la fois, je trouve que l'histoire de ce couvent est assez passionnante parce que c'est un moine qui s'appelait Guido di Pietro et qui est rentré dans les ordres sous le nom de Fra Giovanni da Fisiole et qui a peint tous les murs du bâtiment du couvent et notamment les 44 fresques de ses compagnons et donc sur des thèmes plutôt religieux mais avec une modernité assez incroyable parce que quand moi en visitant ce musée par exemple je crois que c'est la cellule numéro 7, je trouve qu'il y a une fresque qui est d'une modernité incroyable quoi. À la limite on retrouverait presque parfois des petits détails de Magritte ou quoi, il y a quand même des choses on est si je ne dis pas de bêtises Frangelico puisque il va être surnommé Frangelico après de par la beauté des fresques qui l'établit et qui l'a peint, il est également surnommé il Beato Angelico et je ne sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas oui non il est né en 1400, il est mort en 1455. Donc c'est un peintre du Quattrocento et pourtant c'est quand même d'une modernité, vraiment d'une modernité folle. Et en visitant ce musée, au départ il y a le cloître, une salle capitulaire où c'est pas, il y a pas encore les œuvres les cellules sont à l'étage. Et lorsqu'on se rend à l'étage, à la sortie des escaliers. Il y a une annonciation d'un format assez imposant. Et bon, mais quand bien même on n'est pas croyant, force est de constater que c'est absolument, c'est un ravissement. Cette annonciation, moi, je la trouvais vraiment fantastique. Et en visitant les autres cellules, ça a été le ravissement s'est prolongé. Notamment, alors dans la 3, il y a une autre annonciation qui est beaucoup plus modeste et qui est très, très belle. Là, en l'occurrence, c'est l'annonciation que l'on découvre lorsqu'on gravit les escaliers. Ouais. Et dans chaque cellule, moi, j'étais émerveillé. J'étais vraiment subjugué et il se trouve que, en tout cas il y a 13 ans, mais c'est encore un peu le cas aujourd'hui, parce que ça dépend des périodes de l'année, mais il y avait quasiment personne dans ce musée. Moi je me souviens l'avoir visité et d'être seul pendant des dizaines de minutes dans les cellules. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait de caméras de vidéosurveillance ni on n'était pas embêté par la présence d'un autre touriste, ni d'un employé qui vient surveiller ce que vous faites. Et lors de cette première visite, je me suis dit, tiens, je resterai bien une nuit dans ce musée. Avec un peu de chance, si je ferme la porte, on pourrait croire que la porte est fermée à l'heure de la fermeture et que c'est tout à fait normal, qu'il n'y a personne dedans. Ça se trouve, personne ne vérifierait. Je ne l'ai pas fait, mais le soir, j'ai écrit le premier chapitre.
Après avoir eu cette première idée, quand même, ce qui est étonnant, c'est qu'il va y avoir une espèce de dégringolade ou d'enchaînement un peu ubuesque ou burlesque de circonstances qui font que ce personnage va rester dans cette cellule. Personne ne va le découvrir dans l'immédiat. Et surtout, il va s'y plaire. Et donc, c'est très, très étonnant. En fait, déjà... Est-ce qu'on peut développer un peu sur le choix, pourquoi as-tu choisi de faire de lui un traducteur? Est-ce que c'est par rapport à ta propre expérience, par rapport à l'image que tu te fais aussi de ce métier, qui est quand même à la base aussi un métier déjà très solitaire? C'est étonnant, c'est presque paradoxal, en même temps, pas tant que ça, je suis en train de le dire, mais il a, c'est comme si ce personnage avait eu besoin d'une réclusion encore plus forte que celle qu'il... celle qu'il connaît d'habitude, pour pouvoir avancer sur sa traduction.
Je crois, en tout cas, au moment donné où il se retrouve enfermé dans la cellule, pour des raisons qui lui sont personnelles, je pense que ça lui fait du bien. Il est content de se retrouver enfermé. C'est quelque chose qui lui plaît. Il a un téléphone, donc s'il voulait, à tout moment, en tout cas au départ... parce qu'après, il aura des problèmes de batterie de téléphone, évidemment. Mais en tout cas, au départ, il est libre de sortir, si on veut, puisque il a tous les moyens. Il y a quelqu'un qui le voit en face, une voisine, et il lui dit de prévenir personne. Donc, à tout moment, il peut sortir, mais il le fait pas parce que moi, je pense qu'il est à une période de sa vie où il a besoin de se retirer du monde, de la vie qui est en plus assez agitée à l'extérieur. Et puis, le fait qu'il soit traducteur, pour moi, c'était important parce qu'il a un ouvrage à traduire. Il en a d'ailleurs deux. Et je pense que pour moi, il fallait une situation aussi. Cette situation lui sied d'autant plus qu'elle nécessite patience, concentration, travail. Et donc, tout vient à point nommé pour pouvoir à la fois entamer ce travail et puis sans doute cogiter à ce qui fait qu'aujourd'hui, il est plutôt content d'être enfermé. Quoi.
Et assez rapidement, d'ailleurs, dans le roman, tu sèmes des indices. C'est vrai que déjà, c'est une cellule, c'est une ancienne chambre, en fait, une ancienne chambre de moine, mais c'est une cellule. Tu parles de réclusion, de détention. Et donc, on va peut-être. Une relecture permet de se rendre compte que tout ne va pas forcément se passer comme sur des roulettes, on va dire. Et que cette première cellule est peut-être annonciatrice d'une autre qui va l'accueillir un peu plus tard. Après, on ne va pas forcément tout dévoiler non plus, mais voilà. Et donc, il est à la recherche d'isolement, cet homme-là, ce Fabrizio. Et c'est vrai que tu as choisi de situer ce roman en 2002, en 2002 en Italie, 2002 par rapport à la France aussi. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de, parce qu'on entend, enfin, voilà, lui, il a l'impression d'être loin des rumeurs du monde, tout comme nous lecteurs quand on ouvre ce livre. Et finalement, on est rattrapé quand même, hein, même lui aussi, on est rattrapé par tout un contexte.
Oui, pour moi, c'était important de situer en 2002 parce que, notamment dans l'histoire italienne, j'avais l'impression qu'on était à la croisée un petit peu de différents chemins au niveau politique, ça c'est sûr. Les brigades rouges, le spectre des brigades rouges n'est pas si éloigné de ça. Et à la fois, 2002, c'est le retour de Berlusconi. C'est son deuxième retour, quoi, c'est son premier retour. Mais c'est la deuxième fois qu'il arrive à la tête en tant que président du Conseil des ministres italien. Il est revenu depuis 2001. 2001, il y a eu Gênes, il y a eu le sommet de Gênes, le contre-sommet, les émeutes, avec des vraies dérives policières qui ont été prouvées, puisqu'il y a eu des procès et avec un mort. Carlo Giuliani et je crois qu'il y a 300 blessés et puis des scènes de folie dans une caserne notamment où vont être arrêtés les manifestants quand il y a des scènes de brimades qui sont rapportées qui sont juste hallucinantes quoi. Des policiers ça a été prouvé, hein, il y a des témoignages et il y a eu des procès derrière donnent des coups avec des saucissons sur les testicules des garçons, les filles, il y a des piercings dans des parties intimes qui sont enlevés devant tout le monde. C'est des scènes, on est en 2001, c'est des scènes qui sont complètement folles. Donc moi, je voulais vraiment situer dans cette période de retour de Berlusconi, où il y a déjà les girotondis, c'est farandole de citoyens qui encerclent les bâtiments d'institutions publiques pour protester contre les projets de réforme, etc. Et puis 2002, c'est vrai que il vit en France, mais il est italien, ce monsieur. Et 2002, c'est le 21 avril. Moi, je me souviens qu'à l'époque, en 2002, on était très, on donnait beaucoup de leçons aux Italiens. Alors, avec non sans raison, mais avec toujours un air de un petit peu condescendant, comme on peut parfois être capable de le faire. Et puis, on a eu le 21 avril. Et puis, 15 ans plus tard, quasiment, on n'a pas beaucoup avancé, quoi. Donc, moi, j'avais vraiment envie de situer cette histoire au carrefour à la croisée politique de deux mouvements, à la fois le berlusconisme et avant les brigades rouges, puisqu'il est, en tout cas, il y a le spectre des brigades rouges qui hante un petit peu l'histoire du traducteur, en tout cas l'histoire familiale du traducteur.
Et on va quand même préciser pour ceux qui ne le savent pas qu'à côté tu es journaliste. Je pense que cet intérêt peut-être aussi et cette façon de traiter les choses, peut-être d'y aller en profondeur dans certains sujets justement par rapport à ça, c'est peut-être lié à ton goût, ton sens de l'actualité et de...
Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans ma vie, je traite souvent l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pour l'instant, je n'ai pas du tout envie d'écrire quoi que ce soit sur Notre-Dame-des-Landes, en tout cas en termes de fiction.
Dans 14 ans, peut-être.
Mais peut-être. Il ne faut pas fermer la porte. Mais non, en tout cas, c'est une période... l'époque des Brigades Rouges, je la trouve... c'est une période que je trouve assez intéressante en termes... Et puis les années Berlusconi sont assez impressionnantes. Donc, moi j'avais envie de faire un. C'est toujours. C'est pas moi de dire si c'est un peu enlevé ou rocambolesque. J'avais envie de faire quelque chose qui n'était pas écrasant. C'est pas un pamphlet politique. J'avais envie que ce soit drôle, enlevé. Et rocambolesque, ça je l'assume complètement. Mais. Et à la fois, j'ose espérer je me dis, avec le recul, tout ce qu'il y a dedans, ça pourrait être vrai. Ça pourrait arriver comme ça. Je relisais dernièrement, en 2011, quelques petits témoignages autour de l'affaire du Ruby Gate, là, la jeune femme qui participait notamment aux soirées Bonga Bonga de Berlusconi. Et à un moment donné, elle va être interrogée par les policiers. Et alors là, je trouve que dans le genre rocambolesque, on pourrait pas imaginer ça. Du coup, elle est transférée, elle est interrogée par les policiers. À ce moment-là, il y a un coup de fil qui émane du palais du président du Conseil des ministres italien. C'est Berlusconi qui fait appeler donc du coup le commissariat pour dire il faut absolument libérer cette jeune femme. Ça va nous porter des ennuis. C'est la nièce du président égyptien à l'époque, Hosni Moubarak. Les policiers, ils disent, mince, effectivement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On la fait sortir, elle sort, on se rend compte qu'elle n'est absolument pas la nièce de Moubarak. Les médias vont voir Berlusconi, et lui, il dit, oh, vous savez, quand une jeune fille est en difficulté, moi, je ne résiste pas pour l'aider. Et personne, et tout le monde trouve ça normal. Alors ça, je trouve ça... Mais effectivement, on a envie de rigoler de ça. Mais ça s'est passé. Et donc, c'est d'un rocambolesque... C'est un chef-d'œuvre en termes de rocambolesque. Mais,
c'est très romanesque.
Et du coup, c'est romanesque, mais on n'oserait pas l'inventer. Ouais. Donc je me dis que... Annunziato, c'est un peu fou ce qui arrive, mais on n'est peut-être pas si loin de...
Est-ce qu'il serait annonciateur
J'espère que non, mais en tout cas, je pense qu'une pareille histoire survienne, est-ce que les choses pourraient se passer comme ça ?
Ouais, c'est sûr, surtout aujourd'hui, quand on voit le climat qui est assez tendu, pour le moins, dès qu'on va quelque part avec des sacs, on est... très très vite inquiété, très très vite suspecté de terrorisme, voilà. Et c'est certes pour notre sécurité, mais quand même, on se dit que on est dans un monde où les choses pourraient aller très très vite. Donc là, on le surprend, ce Fabrizio Annunziato, avec un drôle de livre aussi dans ses affaires, ce qui ne va pas ranger son cas.
Oui, quand il est découvert, ça on peut le dire. Quand il est découvert, dans la cellule, parce que quand même à un moment donné il est trouvé, le musée il est bien obligé de rouvrir, tout de suite il va être soupçonné de faire partie d'une mouvance qui serait révolutionnaire, complotiste, et puis quand on cherche on peut toujours trouver
des ramifications
qui sont plus ou moins justes.
C'est sûr. Alors du coup, tout ça est très sérieux, mais quand même, on pourrait insister un peu plus sur l'humour. Parce que c'est vrai que, et du coup, parle un peu de tes références, parce que c'est quand même un roman dans lequel, évidemment, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas. Les choses s'enchaînent de façon vraiment très, très étonnante. On a utilisé le mot rocambolesque, burlesque, la légèreté, etc. Alors du coup, où est-ce que tu te situes, on peut penser... au cinéma italien, un petit peu quand même, on pense à des farces, des comédies des années 50 ou 60. Est-ce que ça fait partie un peu de tes sources d'inspiration aussi?
Ah oui, complètement. Moi, j'ai fait des études dans l'audiovisuel, donc j'ai eu l'occasion de m'intéresser notamment à l'histoire du cinéma, puis au film datant d'époque un peu plus lointaine. Et le cinéma italien des années, notamment 70, moi, je le trouve... je trouve qu'il y a des pépites, quoi. Il y a des choses qui sont fabuleuses. C'est pour ça que... c'est truffé. Le président administrateur du musée, il s'appelle Gassman. Il ne s'appelle pas Vittorio, mais il s'appelle Gassman. Et il y a une employée qui s'appelle Lorraine.
Ettore Scola, qui n'est pas très loin.
Oui. Mais quoi, sur le cinéma, j'ai souvenir de notamment du Fanfaron de Dino Risi, et dont le scénario, Ettore Scola a collaboré au scénario, et c'est un film avec Vittorio Gassman et Trintignant. Et Trintignant, donc dans sa période italienne, qui parle parfaitement italien, c'est magnifique à l'oreille déjà, et c'est un film qui va à 100 à l'heure. C'est un film qui est qui est dramatique en plus, quoi, qui est pas du tout dénué d'une certaine mélancolie et d'une force dramatique. Et à la fois, au début, ça pétarade de partout, ça cavale. C'est Gassman, qui est un étudiant qui fait tout le temps la bringue et qui embarque Trintignant, qui passe pour un rabat-joie en permanence parce que lui, il veut réviser. Et il l'embarque tout le temps. Et le film, il cavale. Et ça, pour moi, sur le côté du rythme, c'était un peu la feuille de route.
Et dans ton cahier des charges, on a quand même aussi un souci de l'écriture très clair, qui peut faire penser à d'autres auteurs du catalogue Minuit, notamment Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint aussi un peu, je trouve aussi pour le sens du rythme et des dimensions aussi très visuelles. Bon. Jean Echenoz aussi. Et on n'en avait pas parlé, mais Éric Laurent, quand même, hein, parce que Éric Laurent, toujours chez Minuit, l'auteur de Renaissance italienne notamment, qui a un goût pour les descriptions, notamment de tableaux, et il s'intéresse énormément à la peinture, qui sont très intéressantes. Et dans son dernier roman, dans lequel il s'attache à parler d'un personnage. Il s'intéresse à la question de la célébrité. Dans Linkipit, en fait, il décrit un poster d'une star, tout comme il décrirait un tableau du Quattrocento. Donc c'est assez étonnant. Et en relisant ton livre, je me suis dit, effectivement, il y a un sens de la description qui est très très clair. Et en même temps, il y a des clins d'œil. Il y a ce côté enjoué, ce ton qu'on peut retrouver chez quelqu'un comme Echenoz. Donc c'est un peu, voilà, il y a quelques paternités un peu qu'on sent comme ça. Est-ce que tu les revendiques, ces paternités?
Je les revendiquerais volontiers. Après, je n'oserais pas me comparer à ces auteurs-là. Mais Echenoz, moi, c'est un de mes auteurs de prédilection. Donc forcément, quand on me dit ça, ça me fait extrêmement plaisir. Éric Laurent, j'aime beaucoup. Après, j'aime tout le catalogue Minuit, donc c'est facile. mais je trouve que Minuit, alors, il y a sans doute une communauté de quelque chose dans le ton, peut-être, je ne sais pas. Mais à la fois, je trouve que Minuit, c'est un catalogue tellement large que rien ne ressemble. Alors, il y a des points communs, mais Mauvigné, c'est pas comme Tanguy Viel, c'est pas comme Echenoz, c'est pas comme Beckett, c'est pas comme Rob Grillet. Il y a quand même chacun à sa particularité. Mais moi, tout ce que tu me dis, Echenoz, Toussaint, Laurent, c'est sûr que c'est dans mon ADN. En tout cas, je les ai lus et j'ai beaucoup aimé. Après, moi, le plus beau compliment que peut me faire, que m'a fait Irène Lindon, ça me faisait toujours rire parce que, comme elle dit, quand c'était la dixième fois qu'elle me le répétait, subitement, comme si elle se rendait compte de ce qu'elle était en train de dire, elle me regarde, elle me dit sérieusement, elle me fait, ah, mais vous allez finir par croire que c'est péjoratif, parce qu'à chaque fois elle me disait, je suis contente parce que ça ressemble à rien. Mais vraiment, ça ressemble à rien, votre truc. Et je voyais bien que c'était un compliment dans sa bouche, qui me touchait beaucoup. Mais je me dis, la première fois qu'elle me l'a dit, je me dis, on pourrait le prendre aussi de façon très péjorative. Mais il n'y a pas longtemps, elle me l'a redit, puis ça me faisait vraiment beaucoup rire, parce que je me disais, tant mieux alors.
Bon, loin de moi l'idée de contredire Irène Lindon. Je ne voudrais pas m'attirer ses foudres. J'ai quand même, par rapport à Echenoz, il y a autre chose du coup dont on n'a pas parlé que je trouvais assez intéressant. Je ne sais pas si tu as lu Envoyé spécial en fait. S'il y a des gens qui l'ont lu, un très très bon roman qu'on vous recommande chaudement. Donc Envoyé spécial, dernier roman de Jean Echenoz. Et donc il y a un point commun intéressant en ce qui concerne le cadrage et la position du narrateur, enfin du narrateur ou de l'auteur, toujours délicat de faire la différence, les zooms qui sont faits sur certaines scènes et la décision parfois de s'arrêter abruptement comme ça, maintenant ça suffit, Genre comme si on tirait le rideau, ou on éteignait la lumière, ou on éteignait la caméra, tout simplement. Est-ce que, en d'autant que tu as fait des études dans l'audiovisuel, voilà, le cinéma reste important pour toi. Est-ce que tu as vraiment, c'est quelque chose que tu recherchais, cette dimension vraiment, cinématographique, un peu comme d'avoir un réalisateur ou quelqu'un qui est derrière la caméra et qui va suivre les scènes un peu comme ça?
Oui, quoi, le côté cut ou ellipse.
Oui,
ou,
ouais, ouais, côté c'est cut, que, ouais. Oui, c'est sans transition.
Chose. Oui, oui, quoi, je pense qu'il y a des moments donnés, ce sont des procédés qui permettent, quoi, à la fois dans un film ou dans un roman, de donner des coups d'accélérateur ou de qui peuvent être très intéressants.
T'as bien le sens du rythme comme ça. Il faut que ça aille vite.
Je ne sais pas si j'arrive à en faire d'autres, comment seront les autres. Mais oui, j'avais envie que y compris qu'à la fin de chaque chapitre, il y ait une fin qui donne envie de continuer, en tout cas.
Est-ce que ça te dirait de lire un extrait éventuellement?
Je peux essayer.
Avant qu'on continue.
Mais alors du coup, je rebondis sur ça, mais parce que j'avais lu une critique qui m'a fait beaucoup rire, et puis je me suis dit, c'est... alors là, pour le coup, c'est le pur hasard. Il y a Kieran Lindon qui pouvait le voir, puisqu'elle a reçu forcément les deux manuscrits, puisque celui d'Envoyé spécial des Chenauds est sorti le 7 janvier. J'ai eu le bonheur de sortir en même temps que lui. Il y avait quelque chose qui pointait une critique, et je trouvais ça assez rigolo, parce que c'est que ce sont deux personnages qui, à un moment donné, sont amenés à être reclus, et lorsqu'ils sont réinjectés, finalement, entre guillemets, dans la vie, interfèrent sur une situation politique. Je trouvais ça assez rigolo, parce que on s'est pas concerté, puis voilà, ça a été fait à des années-lumière de tout ça, mais je me suis dit, tiens, je sais plus, dans le choix d'Irène Lindon de sortir ces deux livres le 7 janvier, je sais pas si elle ça la fait marrer de se dire, tiens, il y a quelque chose de parallèle, comme un procédé parallèle qui était. Parce que pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas lu Envoyé spécial,
oui,
quand même, il arrive à envoyer quelqu'un au fin fond de la Creuse et puis de la faire ressortir en Corée, quoi, ce qui est assez prodigieux. La chambre de Fabrizio Annunziato, donc, avec la fresque de Fra Angelico. Ce n'est pas Lascaux, la technique est nettement plus aboutie, tout comme le dessin, mais quand même, la sensation est étrange et assez indéfinissable, vu que les couleurs, vu le mur, vu que des fragments de dessin se sont évanouis dans le mur. Ce n'est pas la beauté des tableaux de Masaccio qui se trouve à l'autre bout de la ville, ce n'est pas le mystère des lignes de Nazca non plus, mais ça y fait vaguement penser, pour l'impression énigmatique, à Lascaux aussi. La complainte de la cellule occupée par Fabrizio Annunziato présente le Christ sur sa croix et rassemble au pied de celle-ci un bénédictin bedonnant et non loin, plus près du crucifix, Madeleine en pleurs, tous deux sans souliers. Les traits des personnages sont doux. La croix aussi semble lisse, sans aspérité ni écharde pour blesser. Bien sûr, il y a le sang qui déborde un peu sur la croix, mais la scène n'est pas abominable. L'image n'inspire pas la peur ou l'inquiétude, elle se trouve dénuée de toute brutalité. Rien à voir avec la chute du père de Camilla dei Bardi sur le sol rugueux du marché. La terre, ocre et sienne, regorge de poussière, mais elle ne paraît pas même sèche ni sale, semble comme agréable à fouler pieds nus. Elle ne paraît pas aride non plus, même si le paysage, en avant-plan comme en arrière, bannit du décor le moindre feuillu, rien, pas même un minuscule carré de près. La lucarne de la chambre est étroite et possède un encadrement entièrement boisé, du bois brut, brun foncé, pétri de ravines et de mille éclats naturels. Mais ce qui attire le regard immanquablement, c'est la lumière baignant la pièce, extraordinairement douce, un coucher de soleil, orangé mais pas trop, décliné à l'infini à cette heure. On dirait justement un tableau, une annonciation. À cette heure, Fabrizio Annunziato a l'impression que cette lumière d'annonciation pourrait emplir éternellement la pièce. Et sur ce point, l'apparence est trompeuse, puisqu'une demi-heure plus tard, le jour s'est éteint subitement, sans que l'on y prenne garde et s'y prépare. C'est la nuit. Rien d'autre dans la cellule, hormis les guéridons dorés et les cordons de velours pourpre. Les trois autres murs sont nus, mais rien de sinistre. Le sol n'accueille aucun meuble ou ustensile décoratif. pas de tapis, nulle paillasse, aucun objet. Voilà, c'est le décor de la cellule de Fabrizio Annunziato.
Merci.
C'est pas le passage le plus drôle, mais,
non, mais...
c'est la présentation.
C'est... Du coup, c'est très, voilà, c'est une très belle description. On a l'impression d'y être complètement, et on a l'impression que tu le vois, ce tableau.
Oui.
Mais par contre, je vous mets au défi de le trouver, cette fresque.
Oui, c'est une fresque qui est inventée. Alors, tout est vrai dans la description du musée, tout, quoi, le nom de l'architecte, Michele Ozzo. Mais donc évidemment, il est question de l'Annonciation et celle de la cellule numéro 3 qui existe. Mais j'avais envie de créer un autre tableau de Frangelico. J'ai regardé ce qu'il avait fait, puis j'avais envie de effectivement, la cellule numéro 5, c'est la nativité, normalement. Et se trouve que c'est pas ma fresque préférée. Donc je me suis dit, je vais en faire une autre.
Il y aurait quelques libertés.
Voilà. Mais je trouvais que c'était... moi, j'avais l'impression que grâce à cette visite, il y avait... finalement, aujourd'hui, il y a un roman. Je me suis dit, tiens, je vais lui donner un tableau supplémentaire dans sa production artistique.
C'est plutôt sympathique. Ouais. mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant. C'est une création littéraire, mais voilà, aussi création artistique. Mais c'est comme si tu avais, avec tes mots, avec voilà, toutes ces phrases, comme si tu avais donné vie à un tableau.
Oui, oui. Alors après, à un moment donné, on en a parlé avec Irène Lindon parce que c'était sur est-ce qu'on peut tout inventer ? Oui, on peut tout inventer. Et le débat était venu parce que s'il y a autre chose qui a changé, c'est les brigadistes, le nom des brigadistes dont il est question dans le livre. Moi, initialement, j'avais mis des brigadistes qui existent, qui ont existé. Et puis, elle m'a dit, les descendants, si jamais ils voient ça, ça remue l'histoire, ils sont capables de nous faire des procès. Les procès, moi, je veux pas ça. On les gagnera, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et puis, elle me dit, franchement, ça vous embêterait de changer ces noms ? Au début, je tiquais un peu, puis après, je me suis dit, mais effectivement, on est dans un roman. Quel est la... Voilà. Ça m'a même extrêmement amusé d'inventer des noms de brigadistes, parce que ça m'a plu de jouer avec les sonorités des gens que je pouvais connaître, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, ouais, ça, il n'y a aucun souci. Il y a une autre question, d'ailleurs. Une autre chose aussi qui a changé, c'était... le mot slip. J'avais mis le mot slip à un moment donné. Et ça, elle ne supporte pas le mot slip, Irène Lindon. Alors je dis, bon. Mais comme c'était pour un personnage qui était plutôt âgé, j'ai commencé à plaider la cause en me disant, mais ça me semble être le mot slip. C'est un mot horrible. Mettez un caleçon. Puis elle m'a prouvé par A plus B qu'aujourd'hui, tout le monde mettait des caleçons. Donc je lui ai dit, bon, d'accord.
En tout cas, pour le procès, c'est quand même un sage conseil quand on voit le nombre de précédents. Et plus ça, oui. Se multiplie. Donc,
oui, en plus, oui, pour pas grand-chose parfois. On l'a vu dernièrement avec Histoire de la violence. Oui.
Effectivement, donc non, c'est plutôt une bonne idée. Et du coup, oui, je voulais en revenir à Stendhal pour terminer sur le chapitre des influences ou des clins d'œil, même si peut-être qu'une troisième ou quatrième lecture me permettant de découvrir d'autres, mais Stendhal est quand même présent, parce que donc tu nous as dit que tout était parti de ta propre visite dans ce musée, de ton émerveillement, de ton éblouissement devant le travail, devant l'œuvre de Frangelico. Donc en fait ça a un nom.
Oui, c'est le syndrome de Stendhal, oui.
Voilà.
Tout à fait, ouais. mais j'avais fait quelques recherches là-dessus, d'ailleurs, parce que j'avais une scène où vraiment il se passait quelque chose, où c'était le syndrome de Stendhal était extrêmement marqué, mais que j'ai enlevé. Mais c'est, quoi, il y a un, une psychiatre italienne qui s'appelle Graziella Magherini avait fait une étude sur, ce phénomène de personnes qui visitent Florence et qui parfois sont pris on décrit des suffocations, une accélération du rythme cardiaque devant certaines œuvres. Et il se trouve que Stendhal, alors il n'avait pas encore écrit Le Rouge et le Noir, et donc c'était, il avait encore son nom qu'il avait lorsqu'il est né. Donc il était à ce moment-là Henri Bell, et il visite Florence et à un moment donné, alors je pense que c'est à la Galerie des Offices parce que c'est quand même là où souvent ces phénomènes peuvent se produire à Florence, parce que c'est quand même le lieu qui abrite le plus de chefs-d'œuvre. Et il en parle dans un livre, Rome, Florence, je crois, et puis autre chose. Et il est pris de palpitations, il décrit, il a des vertiges, il est obligé de s'asseoir à un moment donné dans la ville sur un banc et puis de vraiment de se poser. Et y a un peu de ça dans en tout cas moi sur la visite en rigolant je disais toujours j'ai fait quelque chose comme le syndrome de Stendhal, mais bon, après c'est plus sous le couvert de la blague. Alors ça s'appelle le syndrome de Stendhal ou le syndrome de Florence, mais cette fameuse psychiatre italienne a fait une étude là-dessus à partir de 200 cas je crois, et on lui a quand même rétorqué que 200 cas par rapport au nombre de visiteurs à Florence, ça faisait peut-être pas une thèse non plus.
Et du coup, tu as fait un clin d'œil, alors on va pas non plus tout dévoiler, mais il y a un clin d'œil intéressant à Stendhal et à la Chartreuse de Parme, du coup.
Le prénom du traducteur, oui, et puis et puis sur le voisinage. Oui, voilà. Parce qu'il est quand même ravitaillé par.
Une bonne fée.
Par une voisine manifestement charmante qui parvient à lui envoyer un peu de nourriture à travers la lucarne de sa cellule.
Tu sais qu'il y a un autre livre, un autre roman qui tourne autour du syndrome de Stendhal qui est sorti à peu près au même moment que le tien. C'est marrant, ça aussi, les parallèles, les ponts. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous, en fait. Donc je trouve le titre exact. C'est Le regard de Gordon Brown de Théobald Brosseau. Barthélemy Théobald Brosseau. C'est aux éditions Losfeld. Lui aussi, j'avais rencontré pour parler de son livre. Et c'était, donc lui, par contre, c'était face à une tapisserie, mais c'est assez drôle. Ah oui. C'est à peu près la même période. Enfin. Et tant qu'on est dans les parallèles, je trouvais intéressant de remarquer qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de romans qui prenaient des traducteurs comme personnage principal. Il y en a effectivement assez peu. Est-ce que toi aussi, est-ce que tu en avais en tête quelques-uns de ces romans? Il y en a un de Brice Mathieu-San dans lequel il se joue un peu de la puissance du traducteur. Est-ce que ce genre de livre, est-ce que tu y avais pensé? Il y avait aussi ce film, enfin ce qui est un livre au départ, mais qui est devenu un film. Alors là, c'est pas sur un traducteur, c'est sur une interprète. D'ailleurs, The Interpreter, c'est l'interprète de Suzanne Glass. Enfin, il y a quelques-uns comme ça. Un personnage de Patrick Lapeyre, en fait, le héros de La vie est brève et Le désir sans fin, de Patrick Lapeyre, en fait, traducteur. Bon, il ne travaille pas beaucoup, peut-être qu'il devrait être enfermé dans une cellule, lui aussi, pour se concentrer. Mais c'est assez peu traité, en fait, en littérature. C'est drôle, quand même.
Pour le coup, je ne sais pas pouvoir beaucoup rebondir là-dessus, parce que je n'avais pas lu de livre avec des traducteurs. Moi, c'était le métier qui me permettait de me dire, ça me paraît logique qu'il puisse être enfermé. Finalement, en tout cas, personne ne se soucie de lui en termes professionnels à ce moment-là. Ça me paraissait être plutôt raccord avec son état, ses états d'âme. Et puis, ça permettait aussi d'instiller le l'histoire, en tout cas la vie politique et notamment le spectre des brigadistes. Donc, je l'ai plus vu comme ça, parce que je ne peux pas dire, pour le coup, là, c'est des carences de culture, mais je n'ai pas lu d'ouvrage sur les traducteurs. J'avais été marqué, mais c'était un correcteur.
C'est Éric Laurent qui a un personnage de correcteur.
Ah ben moi, je pensais à celui de l'Histoire du siège de Lisbonne de José Saramago, un livre que j'adorais. Et c'est très, quoi, le point de départ est fabuleux, c'est un correcteur et à un moment donné, il s'amuse à mettre une négation dans l'ouvrage qu'il doit corriger, et ça change toute l'histoire du siège de Lisbonne, cette négation. Donc toute l'histoire, elle commence à partir, et ça, je trouvais ça une idée vraiment fabuleuse, quoi. Mais c'est le seul ouvrage où je pense que j'ai réellement lu comme ça, avec un personnage qui est dans le monde littéraire.
Il y avait un roman de Javier Marías, un cœur si blanc, avec donc un personnage de traducteur aussi.
Ah bah, je l'ai lu alors. Donc, ça, c'était resté.
C'était longtemps, mais.
Mais ça, c'est vrai, je l'ai lu. Il est très bien.
Et un livre d'Alain Fleischer aussi, qui est une prolongation, qui est sur un personnage d'interprète. C'est quand même intéressant. Il ne reste plus qu'à te remercier d'avoir tous ces kilomètres.
Merci pour cette invitation.
Toutes ces heures de train.
C'est un plaisir.
Pour venir jusqu'à nous. Merci beaucoup.